Allez, bonjour tout le monde, petit audio sur Patreon, bien sûr, encore une fois, vous êtes gâtés. Avec cette 6000D qui approche, 6000D, nous allons passer en revue le petit document, la feuille de route, voilà. Pourquoi la 6000D? C'est une course à laquelle j'avais hésité à participer les années précédentes, mais malheureusement, elle était mal placée, entre guillemets. Puisqu'elle était, alors elle est toujours globalement fin juillet, vous savez que l'UTMB est toujours globalement fin août, mais vous avez des petits décalages d'une semaine certaines années, et effectivement, cette année, en 2024, nous avons une 6000D le samedi 27 juillet, et 1, 2, 3, 4, 5 semaines après, nous avons l'UTMB, donc là on a le temps de récupérer d'un effort violent. L'effort violent, lequel est-il? C'est les 3000 mètres de dénivelé que nous allons descendre quasiment one shot. Il y a une petite remontée de 300 mètres de dénivelé au milieu de la descente, mais globalement, on va se taper 3000 mètres de D- dans les cuisseaux, et ça laisse des traces. Donc à S-4, c'est un peu dangereux, et à S-5, on est bien, on est peinard, ça s'intègre de manière... très harmonieuse à une préparation UTMB. En plus, la course est le samedi, ça veut dire que dimanche, on va faire une sortie longue sur fatigue, sortie longue qui sera absolument horrible, à un rythme extrêmement lent, perclus de douleur, mais ô combien capital pour ensuite surcompenser de tout ça pour l'UTMB. Voilà, le fameux bloc, le fameux week-end choc, AS-5, c'est parti, on y est. Alors aussi, pourquoi la 6000D? Donc vous allez le voir à la fin du document, si vous êtes nouveau sur Patreon, vous débarquez en cours de route. La 6000D a un but pécunier très important, puisqu'on est sur la finale, enfin sur la dernière manche en tout cas, du challenge national. Voilà, c'est l'épreuve de haute montagne, il y avait celle des passerelles du Monténard il y a deux semaines, et là nous avons la deuxième, celle de la 6000D. Et nous avons un remarquable coup tactique de Mathieu Debroas qui est allé remporter le trail des passerelles et qui a donc, vous le verrez à la fin du document, de grandes chances de remporter le challenge national à moins d'un miracle de la part de moi ou de Valentin. Mais sinon Mathieu va encaisser le chèque de 6000 euros et bravo à lui. Alors, 6000D, quelques caractéristiques, puisque la course est quand même atypique. Bon, le départ à 5h du matin est somme toute logique, on est l'été, il fait chaud, voilà, comme ça va permettre un petit peu de fraîcheur. Alors si vous êtes lent, bah vous allez vous taper la chaleur toute la journée, et si vous êtes rapide, vous êtes récompensé. Donc le sport est une méritocratie, vous êtes récompensé, vous avez un peu moins chaud parce que vous arrivez un peu plus tôt. Donc plus vous êtes lent, plus vous êtes puni. Départ à 5h, 68 km et 3420 mètres de dénivelé positif. Ça, c'est depuis, je crois, 2016 ou 2018. En fait, le parcours a été un petit peu modifié. Le parcours ancestral qui existait depuis 1990 faisait 55 km et 3000 mètres de dénivelé. Et vous pouvez retrouver tous les résultats sur le site de la 6000D, ils sont tous référencés de 1990 à aujourd'hui, donc c'est très intéressant. Vous pouvez vous amuser à éplucher les résultats entre les années 2000 et 2012, vous avez pas mal de grands noms qui sont allés sur cette 6000D, parce que c'est vrai que dans les années 2000, vous aviez le marathon du Mont Blanc, enfin c'était même que le cross du Mont Blanc avant, vous aviez la 6000D, vous aviez les Templiers, et vous aviez la Saint-Élion. Voilà, c'était quatre piliers dans l'année. La Saint-Élion n'attirait pas vraiment les trailers, en fait. Elle attirait plutôt les sans-bornards, les coureurs sur route. Mais les trailers se retrouvaient quasiment toutes et tous au cross, ou ensuite au marathon du Mont-Blanc, quand il a été créé, à la 6000D et aux Templiers. Voilà, il y avait trois épreuves, en gros, pour les amoureux de trail. Et bien sûr, on avait beaucoup moins de pratiquants, donc ça ne posait aucun problème. Alors qu'aujourd'hui, si on supprimerait toutes les épreuves qui existent pour ne faire que le marathon du Mont-Blanc, la 6000D et les Templiers, voilà, vous auriez des tirages au sort sur 20 ans, ce qui vous contrarierait sans aucun doute. Donc la 6000D, c'est des règles assez simples, hein, c'est une course ancestrale, voilà, donc ils se font pas chier avec des fioritures. Il y a 5 ravitaillements principaux, ils sont tous autorisés à l'assistance. Après, il y a des points d'eau qui sont ajoutés tout au long du parcours. Peut-être qu'il est autorisé d'y aller aussi pour l'assistance, mais c'est chiant. Donc on va conserver les 5 ravitaux principaux. Et nous n'irons pas au dernier parce que ça n'est pas possible d'y accéder en fait en voiture. Il faut tout redescendre puis remonter une autre route sur le côté. Et à pied, nous on coupe en fait en diagonale dans les bois, en descente en plus. Donc c'est impossible d'arriver avant nous. Voilà, puis ça n'est pas non plus capital. Donc on va pas faire des burns, prévoir deux voitures, des trucs comme ça. On va se calmer et faire des choses simples. Alors d'autant plus qu'à la 6000D... Je le répéterai en lisant ce document exceptionnel encore une fois. Attendez, je n'ai plus de batterie sur l'ordinateur. Voilà. En fait, vous posez la voiture. Alors, vous montez quand même, vous faites quoi, 10-15 bornes jusqu'à Plain Centre. Vous posez la voiture. Et après, vous faites tout avec un télécabine. Donc, c'est sympa. Puis, ça économise un peu le gasoil. Voilà, donc une course intéressante, pas compliquée, pas chiante, voilà. Alors, on serait parti à 7h du matin, j'aurais pas craché dessus, mais faisons plaisir aux gueux qui arrivent tard le soir et partons à 5h du matin. Donc là, on avait tout à l'heure une méritocratie, et vous voyez que je viens de vous retourner le problème, et on a un nivellement par le bas, donc chacun y verra midi à sa porte. Hop, vous étiez pas prêts pour cette petite phrase à l'emporte-pièce. Le matériel obligatoire, alors il est très succinct sur cette 6000D, ce qui est assez étonnant, parce que vous montez quand même à 3000 mètres d'altitude sur un ancien glacier. Évidemment, aujourd'hui, il n'existe plus, bien que vous aviez toujours des gens qui vont renier un certain changement climatique, qui vont trouver que la coïncidence de l'augmentation des températures et de l'ère industrielle est une coïncidence. mais vous n'avez plus de glacier en fait, nous allons courir dans un lieu où avant il y avait un glacier, il n'est plus là, il s'est barré, il ne reviendra pas, voilà, c'est comme ça. Et le matériel obligatoire est très succinct, alors ça vient peut-être du fait que constamment, je dis bien constamment, nous sommes à proximité de pistes 4x4, et je pense que les secours peuvent se déplacer très très facilement, que ce soit en quad ou en pick-up. Donc des véhicules qui roulent au gasoil, ils peuvent se déplacer, pire encore, l'hélicoptère, pour venir vous secourir, vous qui votez les Verts, grâce au gasoil, on vous secourt d'un plaisir égoïste en montagne, mais vu que vous votez écolo, et que vous recyclez 5% de vos déchets, franchement ça passe, ça annule, pas de problème. Donc le matériel obligatoire, 0,5 litre d'eau, moi personnellement j'aurais 1 litre en permanence. Ah non, tiens non, c'est pas vrai. Un sifflet, ça c'est très important, c'est pour communiquer avec les oiseaux si jamais vous vous ennuyez sur le parcours. Un coupe-vent, ça me semble tout à fait logique. Une couverture de survie bien sûr, évidemment, ça protège de tout. Des intempéries, du froid, du chaud. À savoir que vous avez un sens hein, sur la couverture de survie. Évidemment, personne ne le sait. Le téléphone portable, ça c'est pour faire des jolis selfies, voilà, des lives bien sûr, pendant la course, ou d'appeler les secours si vous avez poussé un concurrent dans un ravin et que vous avez des remords. La lampe frontale, vu qu'on va courir en plein jour, je pense que c'est capital, donc voilà, c'est dommage, on serait parti à 6h du matin, il n'y en avait pas besoin, mais comme on part à 5h, bah, tout le monde va se taper une lampe frontale, voilà. Un sachet zippé. Pourquoi un sachet zippé? Écoutez, je ne sais pas. Mais il faut un sachet zippé. C'est pas grave, je vais mettre mon téléphone dedans, ce sera parfait. Voilà. Donc là, je vous ai mis une photo de moi au Lavaredo, parce que c'est joli. Et puis après, on y va pour le départ à 5h de la ville d'Em. Donc je partirai avec deux flasques. Ce sera une composition classique, comme de d'habitude, depuis 2020 on va dire, avec 2 grammes de BCA par flasque, 50 grammes de boisson baou par flasque, donc c'est de la maltodextrine, de maïs pour l'instant, malheureusement pas de manioc, je leur ai fait la remarque 20 fois, Je pense que c'est bon, ils ont compris. 200 ml de ceinture dégazée. Et puis je rajoute de l'eau après. Alors, j'ai beaucoup de glucides dans ces flasques. Hein. Vous voyez, 50 grammes de boisson, c'est assez élevé. C'est vrai que la boisson Baou se dilue très très bien. En fait, il n'y a pas que de la maltodextrine. Ils ont ajouté un peu de saccharose. Et je crois qu'il y a un tout petit peu de fructose également. Donc une boisson... du coup, qui se dilue mieux que full maltodextrine, il faut le reconnaître. Après, voilà, pour l'index glycémique, bah malheureusement, j'ai plus de capteurs cette année, je peux pas trop vous dire. Là, vu qu'on va faire beaucoup de seuils, ça n'est peut-être pas très important. Et puis, j'emmène sur moi deux gels Baou et une purée pomme-poire. Donc, tout ça pour faire quasiment 21 km et 1500 mètres de dénivelé positif. En dénivelé négatif, il y a quasiment rien, parce qu'on fait que monter, en fait. C'est très très spécial cette course, en gros vous montez, vous descendez. Je vous ai mis des petits temps de passage intermédiaires qu'il faudra bien que je me note aussi. Donc longe fois, c'est un petit hameau au kilomètre 7,75, je vais passer en 42 minutes. Ça me mettrait dans le top 15 en 2023. Baptiste Chassagne était passé en 41 minutes, il était à peine dans le top 10. Voilà, donc un départ prudent en retrait. Pour plusieurs raisons, déjà la course va durer plus de 6 heures, la montée va durer plus de 3 heures. Et je sors du Lavaredo, donc je suis émoussé, je suis fatigué, même si je me sens bien et que j'ai essayé de préparer cette course de manière intelligente. On ne gomme pas un effort d'ultra-trail qui a eu lieu 4 semaines avant, donc il faut en avoir conscience. Et le but du jeu pour moi va être de monter en perdant pas trop de temps, hein. Bien sûr, on va pas s'arrêter manger des chips. Mais le but va être surtout de bourriner en descente. Voilà, ça par contre c'est très possible. Et c'est d'ailleurs le but en vue de l'UTMB, vraiment descendre comme un goré. Donc il faut y aller dans la descente et la montée, voilà, perdre le moins de temps possible, mais ne pas se mettre dans le rouge. Parce que sinon on peut vraiment vivre l'explosion du fait de la fatigue du Lavaredo qui va sans doute venir me cueillir. La piste de Bob, donc on est au kilomètre 13, il faut passer en 1h25, donc là j'aurais commencé à remonter des places parce que vous aurez quelques débiles qui seront partis trop vite, enfin vous en aurez même beaucoup je pense. Et on arrive au ravitaillement numéro 1, Plagne Centre, voilà on y est après 2 heures de course, et j'aurais encore gagné quelques places normalement si on se fie au classement de l'an dernier. À savoir que cette année est beaucoup plus dense, hein. On a quasiment un facteur 2, donc il faudra le prendre en compte. Pour les classements. Donc là, je délaisse évidemment ma lampe frontale, puisqu'elle ne sert à rien, d'ailleurs elle aura servi à peine une demi-heure, et j'en garde une petite dans la poche du sac, voilà, qui sert à rien, mais qui permet de cocher la case sur le matos obligatoire, ce qui est très très important en France. Ensuite, je pars de ce ravitaillement avec une seule flasque, parce que vous le voyez, derrière il y a 10 km, 700 mètres de dénivelé, donc on va mettre une heure et car 1h12, voilà, j'ai prévu 1h12. On est possiblement un peu juste en boisson, mais il y a normalement un point d'eau à la roche de Mio. Alors attendez, parce que j'ai fermé la page du live trail. Et du coup, je ne vois plus s'il y a un point d'eau au milieu, mais j'avais prévu de m'abreuver à cet endroit-là. Ah non, il n'y en a pas. Donc je vais rajouter un petit peu de ceinture à prendre avec moi. Oui, je vais ajouter une deuxième flasque, plus une demi-flasque au ceinture. Voilà, je voulais ajouter en live. Et je l'ai pas ajouté au bon endroit parce que je suis un abruti, donc je fais la correction bien sûr en live sous vos yeux ébahis. Hop. Donc après on monte au bordel, au col de la Chiope, en passant par la roche de Mio. Donc là ça monte puis ça redescend légèrement. Première vraie descente du coup, bon elle est pas très longue mais elle va nous occuper quelques minutes. Et là c'est pareil, je vais prendre... Ah non, mais c'est pas le bon endroit encore, là. Putain, je me suis encore gouré. Voilà. Donc, du col de la Chiope, on monte au glacier et on redescend au col de la Chiope. Donc là, votre assistance est arrivée au col via le télécabine. gratuit offert avec le dossard. Et vous vous redescendez, du coup ils n'ont pas bougé, et vous repassez devant. Alors, je prévois une flasque parce qu'on a 50 minutes pour faire l'aller-retour. On parle de 7,5 km, 600 mètres de dénivelé. C'est vrai que c'est peut-être un peu prétentieux. Mais j'aurai récupéré les bâtons avant, donc là on sera pas mal. Parce que, alors pourquoi je récupère les bâtons? Déjà je vais me forcer à faire du mini-tro jusqu'à Plaine-Centre, et après je récupère les bâtons. Jusqu'au col de la Chiope, ça n'est pas beaucoup plus raide qu'au début, mais donc je ferai du mini-tro avec les bâtons. Et par contre, pour aller au sommet du glacier, donc les 400 derniers mètres de dénivelé, il n'y a aucune chance de courir, c'est vraiment très raide. En plus, vous êtes quasiment à 3000 mètres d'altitude, enfin vous êtes entre 2006 et 3000. Donc ce sera très difficile, et là je vais pousser sur les bâtons. Et après, je les redonne, les bâtons, plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on redescend, on passe au col de la Chiope. Et là, en 50 minutes, voilà, on arrive à Plaine-Belle-Côte. Et là, en fait, il y a une remontée. Avant d'arriver à Plaine-Belle-Côte, on passe le col de l'Arpette. Et cette remontée, je voulais afficher ici, il y a quand même quasiment 300 mètres de dénivelé positif, et c'est du 16%, ce qui fait que, après 4h20 d'effort, je vais arriver là-dedans, je ne suis pas certain d'arriver à courir tout le long, d'autant plus qu'après, il est très important de faire une deuxième partie de descente rapide, donc avoir les bâtons ici me semble être une bonne sécurité, pour faire du mini-tro avec bâton. Ça me semble être la chose la plus intelligente. Du mini-tro sans bâton, ça va me sembler trop dur après 4 heures d'effort. Et si jamais ça ne va pas, du coup, je peux même marcher avec les bâtons. Donc c'est assez intéressant. Et par contre, une fois arrivé à Plaine-Belle-Côte, il n'y a plus de dénivelé positif. Donc là, je laisse les bâtons. Et c'est la dernière fois que je croiserai donc ma compagne, et je repars avec deux flasques. Parce que derrière, on a quasiment 1h40 d'effort. Voilà, deux flasques et trois gels. Mon chavin, donc c'est le ravitaillement où nous n'irons pas. C'est beaucoup trop éloigné. Voilà, et on sera en pleine descente à fond les ballons. Normalement, je n'ai pas besoin de m'y arrêter. Et puis, voilà, prévu d'arriver à M après 6h20 de course. Alors, c'est un peu ambitieux, hein, évidemment. On va essayer de pacer tout ça. Ce qui est très possible, c'est que je perde du temps par rapport à mes prévisions dans la montée. Donc j'arrive au col de la Chiope en un peu plus que 3h12. Et ce qui serait bien par contre, c'est de tenir les temps en descente. Parce que c'est l'exercice visé quand même. Et puis on verra pour l'arrivée. Voilà, 6h20, ça ferait une cotation à 830, il me semble. Attendez, je vérifie. Donc je vous ai mis les classements de l'année d'après un petit peu en bas. Et voilà, Baptiste Chassagne l'avait emporté en 6h20. Enfin, il avait fait deuxième en 6h21. Et il avait coté à 834. C'est quelque chose qui est à ma portée. Si jamais je dévie un peu jusqu'à 6h30, ça fait du 820 à peu près. Voilà, donc c'est. On a un laps, un temps d'effort, donc je peux me permettre de perdre 10 minutes en montée. Et puis le but du jeu serait de descendre quand même vraiment vite. Donc voilà, pas d'inquiétude sur la montée. On a une marge de plus ou moins 10 minutes. Si ça va bien, on monte comme il faut. Et si ça va pas bien, on prend cette marge de 10 minutes progressivement. Donc une marge de 10 minutes sur 3 heures, ça veut dire que toutes les heures, je peux avoir 3 minutes de retard sur mes prévisions, à peu près. Voilà, je vous ai mis la start list, donc issue de Live Trail, et vous voyez qu'elle est richement fournie, ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc j'ai la 11e cotation au départ, et derrière moi, il y a encore tout un tas de très bonnes cotations. Vous voyez, c'est très dense. Et on a 30 personnes au-dessus de 750. Et on en a 21 au-dessus de 780. Quoi. Donc c'est une course assez dense. C'est la plus dense du challenge national. Voilà, donc il fallait faire le trail des passerelles d'un point de vue stratégique. Je n'ai pas pu y aller parce que j'avais ma grosse ampoule qui n'avait pas guéri sous le pied. Donc voilà, c'est comme ça. Je vous ai mis le classement de 2023 avec les cotations. Une petite photo du Lavaredo, on en profite, ça fait toujours plaisir. Le parcours avec le lien trace de trail. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le point sur le challenge national. Ah oui, alors ça c'est très important. Donc après deux étapes plates, soit vous visiez le Sparna Trail en novembre, soit vous visiez l'Eco Trail de Paris. après deux étapes de moyenne montagne, soit vous faisiez le Trail des Vosges, soit vous faisiez la Pastourelle. Et après une étape de haute montagne, le Trail des Passerelles du Monténard, nous arrivons donc à cette dernière manche, la 6000D. Je vous ai mis le classement actuel, à savoir qu'Ambroise Bonfils ne va pas prendre le départ de cette 6000D, donc il n'aura pas fait de course de haute montagne, donc il va disparaître du classement. Il va se faire éliminer. Ce qui fait que j'ai donc aucun mal à le doubler. Vous voyez que Mathieu Debroisse et Eric Hérault ont terminé le challenge, ils ont fait les 3 étapes. Pour doubler Eric, il faut que je termine dans les 18 premiers. Ça, normalement, c'est à ma portée, donc je devrais doubler Eric. Pour doubler Mathieu, ça va être très dur. Il faut que je termine dans les 4 premiers. Donc la 4ème place me donnerait 130 points. J'en aurais 455 et je serai devant Mathieu. Quand vous voyez la start list de départ, je pense pas qu'il soit possible de battre Sébastien Speller, ni Antoine Thiria, ni Valentin Bénard. Antoine a abandonné le 90 du Mont-Blanc, donc je sais pas dans quel état il arrive. Valentin Bénard, je sais pas non plus, mais il a quand même fait 5ème des championnats de France cette année. Thibaut Marquet, il a fait 9ème du 90 du Mont-Blanc, donc lui aussi va être un peu fatigué. Peut-être que je peux arriver à jouer avec lui, même si physiologiquement il est meilleur que moi. Alexandre Méleu n'a jamais réussi de course au-delà de 4 heures d'effort, donc il est possible de le battre. Mais c'est peut-être la première fois qu'il va réussir aussi, parce qu'il s'entête. Johan Stuck, je ne sais pas dans quel niveau de forme il arrive. Après, Johan est toujours quelqu'un de très rapide. Nicolas Raymond est un coureur de trail court, donc je serais quand même assez surpris de le voir devant moi après 6 heures d'effort. Goulven Kernegez est, à mon avis, la personne qui va m'accompagner le plus longtemps. Tom Gentil, je ne le connais pas. Yann Baudet, bah c'est celui qui a gagné l'an passé en 6h20, donc bah lui, il est capable de courir en 6h20, donc c'est, voilà, c'est un bon concurrent. Benoît Chauvet, je sais pas trop dans quel état il arrive, au trail niveau les revards, il m'a pas impressionné. Mathieu Debroisse, je pense qu'il ne prendra pas le départ, vu qu'il a gagné les passerelles, il va pas se faire chier. Camille Tominet, bon bah c'est un coureur qui est très fort physiologiquement, parce que c'est un ancien professionnel de cyclisme, qui évolue en continental, mais voilà, descendre 3000 mètres de dénivelé, je pense qu'au bout d'un moment, je vais le rattraper. Corentin Play, ça va être une longue distance pour lui, donc à voir. Ambroise ne prend pas le départ. Yarno Legros court chaque année la 6000D, je sais pas ce qu'il a avec cette course. Et il est chaque année en 6h35-40, donc c'est un bon adversaire. Fabrice Fauzet ne prendra pas le départ. Valentin Joachin, il faut que je le batte. Ce que vous voyez au classement, Valentin a 10 points de retard sur moi. Ce qui fait qu'il faut que je le batte. Sauf si on termine tous les deux après la 5ème place. À ce moment-là, il faut qu'il me batte de 2 places. Et si on termine après le top 10, il faut qu'il me batte de 3 places. Donc ça va être compliqué pour Valentin de finir devant moi. Parce que la course va durer 6h30 à peu près. Et Valentin avait déjà eu du mal à finir la Pastourelle qui durait 5h30. Juste Rimbaud, bah, je l'ai battu toute l'année. Ce serait quand même surprenant de le voir devant moi. Surtout que là, on est quand même sur mon terrain, la haute montagne. Patriote, Ewen Porial qui va se lancer sur une longue distance. Voilà, qui visera 6h40 à peu près. Et puis après, bah, tout ce qui est un peu second couteau, donc des gens qui peuvent, voilà, qui ont entre 750 et 780 de cotation. On a Stéphane Ricard, qui est le vainqueur et recordman, je crois, en 2021. Depuis, bah, y a eu des hauts et des bas pour Stéphane, mais bon, si jamais il va bien en ce moment, bah, il peut nous la mettre, hein, comme on dit. Voilà, en 2021, il avait gagné en 6h12, à savoir que l'ami Beniata Marmisol avait gagné en 2022 en 6h20. Et donc en 2022, 6h20, ça valait 843, et en 2023, 6h20, ça valait 834. Je ne ferai pas plus de commentaires, vous avez tous été au CE1. Voilà. Voilà le point. Donc voilà, après, juste Rimbaud. Adrien Pavie, notre patriote, va sans doute finir 6ème, donc il touchera 0 euro. Par contre, Adrien peut miser sur un abandon de la part de Juste, de la part de Valentin et de la part de moi-même. Bah, on sait pas, hein, une vilaine blessure. Et si une de ces trois personnes abandonne, Adrien se retrouvera 5ème et empochera la somme de 1000 euros. Par contre, Adrien ne peut pas doubler Eric. Il faudrait qu'il marque 95 points et qu'il termine 8ème. Alors même s'il y est arrivé sur la pastourelle, là malheureusement pour Adrien, on a un plateau beaucoup plus élevé. Donc hormis sortir la course de sa vie, il n'y arrivera pas. Ça, là, le plateau est beaucoup trop élevé. Et Adrien, doubler Juste, Rimbaud à la régulière, ça voudrait dire marquer 90 points. Et donc 95 pour le dépasser. Donc on est encore sur une 8ème place. Ça marche pas. Ah oui, non, c'est ça que je voulais dire, c'est juste Rimbaud. Adrien ne peut pas doubler Eric, il faudrait qu'il gagne la course. Bon, là, ça relève quand même de l'impossible, vu le plateau. Voilà. Eh bien, rendez-vous... Rendez-vous la semaine prochaine pour ce petit retour et vous pourrez suivre la course sur Live Try. Salut.